Vous allez écouter une émission différée. Les femmes du comité Sahraoui parlent de la lutte des femmes dans le peuple Sahraoui. Cette émission est passée à la radio Pleine Lune le 8 décembre. Vous la réécouterez pendant toute la journée. Elle repassera pendant toute la journée jusqu'à nos nouvelles émissions ce soir à partir de 19h. C'est la Pleine Lune sur 101.4. Radio Pleine Lune, vous allez écouter une émission en différé sur les femmes dans la lutte du peuple sahraoui, émission qui a été diffusée le 8 décembre en direct sur Radio Pleine Lune. Radio Pleine Lune, 101.4 sur Radio Zone. Donc, je vous rappelle, nous sommes sur la Pleine Lune, Radio Zone, 101.4. Ce soir, une discussion avec les femmes du comité Sahraoui sur la lutte des femmes du peuple Sahraoui. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Le téléphone, c'est le 20 01 93, en faisant le 023 si vous êtes à Genève. Bien, alors, un peu resituer la lutte du peuple sahraoui. Donc, c'est au Sahara occidental, situé entre le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. Le peuple sahraoui, qui a subi avant tout la colonisation espagnole, en 1975, se libère et immédiatement est attaqué par le Maroc et la Mauritanie qui revendiquent ce territoire qui est très très riche, d'après, comme vous le préciserez. Alors, les femmes sahraouies ont un rôle très important dans cette lutte du Front Polisario. Et la première chose que j'aimerais vous demander, c'est un peu resituer leur situation au cours de ces différentes périodes qu'elles ont vécues, donc avant la colonisation espagnole, et un peu maintenant, comment elles se situent actuellement en temps de guerre.
Bon, pour commencer, on peut dire que la femme sahraoui, avant la colonisation espagnole, était beaucoup plus indépendante qu'après, que durant cette colonisation espagnole. Elle avait une vie nomade, elle avait sa tente, ses troupeaux, enfin son troupeau, selon ses moyens, et elle était relativement autonome, dans le sens que contrairement à d'autres pays arabes, elle pouvait accueillir sous sa tente, même si le mari n'était pas là, si aucun homme était là, des gens de passage, des amis, des connaissances. Ensuite, avec la colonisation espagnole, il y a eu sédentarisation. Les villages se sont grossis, sont devenus des villes assez industrielles. On a commencé à exploiter le phosphate vers la fin de la colonisation espagnole. Et les nomades, les éleveurs, sont devenus des ouvriers, notamment à Boukra, là où on extrait le phosphate. Et la femme s'est trouvée recluse dans sa maison, un petit peu comme dans tous les pays arabes, avec une liberté devenue très limitée.
Je crois peut-être ce qui est important d'ajouter dans cette période-là, c'est que à tout niveau, avant la colonisation, et c'est resté encore chez ceux qui nomadisaient, c'est que leur culture propre était très forte, qu'ils avaient, la femme sahraoui par exemple, n'a jamais été voilée. Elle avait vraiment une grande liberté dans les domaines qui lui étaient particuliers. Et qu'avec cette sédentarisation dont Ania vient de parler, vraiment ça s'est réduit considérablement et elle est devenue femme de prolétaire sahraoui avec tout ce que ça comportait, d'autant plus que le colonisateur espagnol ne prenait pas du tout la femme en considération et dans tous les actes sociaux de la vie, la femme était vraiment reléguée au second plan. Pour l'éducation par exemple, eh bien, extrêmement rares ont été les femmes sahraouies qui ont pu aller à l'école parce que simplement, les écoles étaient déjà tellement peu nombreuses qu'il y a quelques garçons qui y allaient et les femmes en étaient exclues. Ce qui n'était pas la même chose auparavant parce que les femmes avaient finalement la même éducation que les garçons, même au niveau coranique. Et comme dans la plupart des pays colonisés, on s'est rendu compte qu'avec la colonisation, le taux, par exemple, d'alphabétisation avait diminué et puis la prise culturelle du milieu colonisateur détruisait en partie, essayait de détruire vraiment tout l'apport culturel prioritaire des peuples colonisés. Et là, la femme, alors, a chuté du temps de la colonisation de façon très forte.
Bien, alors en 1975, il y a eu le départ plus ou moins provoqué, puisque quand même les Sahraouis avaient pris les armes pour chasser les Espagnols, plus avec ratification de l'ONU, donc l'Espagne est partie, et le Maroc a tout de suite voulu prendre ce territoire, donc je resitue un peu géographiquement, vous me direz si je fais des erreurs. Donc le Maroc n'a pas de désert, ne possède pas de désert proprement dit, et il a toujours voulu avoir cette partie du désert. Bon, il y a aussi, comme on l'a dit, des grandes richesses, du phosphate, il y a toute la partie des ports sur l'Atlantique. Donc le Sahara occidental est un enjeu stratégique et économique très important pour le Maroc, qui a tout de suite occupé ces territoires. Alors, il y a eu... quelle est la situation? Peut-être expliquer un peu la situation au niveau de cette guerre. Comment ça se passe actuellement?
Juste chose. Je voudrais juste préciser une chose avant de passer à la guerre proprement dite. Il est peut-être pas exact de dire qu'il n'y a pas de Sahara au Maroc. Effectivement, il y a un Sahara au sud du Maroc qui va jusqu'à la frontière internationalement reconnue du Sahara occidental. Cette frontière existe depuis 1880 et peut-être 4 ou 7, date du début de la colonisation, et on ne peut pas la remettre en question, cette frontière. Donc le Maroc voudrait s'approprier du Sahara occidental, surtout à cause de ses richesses en fait, richesses en phosphate. Et avec en s'appropriant de la production de phosphate, il deviendrait peut-être un des premiers producteurs mondiaux de phosphate et pourrait à son tour fixer les prix sur le marché mondial. D'autre part, le Sahara occidental a des côtes extrêmement riches, parmi les plus riches du monde. Et on entend très souvent parler de l'arraisonnement de bateaux étrangers par les troupes sahraouis, de bateaux coréens, de bateaux, je ne sais pas, espagnols, japonais, etc., dont les pêcheurs viennent piller simplement les côtes poissonneuses. Voilà. Alors pour ce qui est de l'instant présent, peut-être que Christiane pourra...
Mais ce que je voudrais dire à ce sujet-là, c'est qu'en fait, le Maroc, depuis très très longtemps, à l'idée d'un grand Maroc. Même si tout le monde connaît la Mauritanie, mais ce pays, le Maroc ne l'a pas reconnu jusqu'à il y a dernièrement, enfin il n'y a pas longtemps que le Maroc a reconnu ce pays-là, parce que lui pensait toujours pouvoir s'étendre jusqu'au fleuve Sénégal. Et il a pris le prétexte de départ des Espagnols pour essayer d'avancer déjà un certain bout. Et la Mauritanie elle-même a peur d'une agression marocaine. Et la Mauritanie doit jouer de façon très diplomatique, justement, pour ne donner aucune possibilité au Maroc de descendre plus bas. Parce qu'en fait, c'était un vieux rêve expansionniste marocain et qui voulait commencer de prendre réalité avec cette invasion du Sahara occidental en 1975. Le Maroc a dit que c'était un territoire qui lui revenait, mais enfin, sa théorie historique ne tient pas debout, puisqu'en 1975, le Maroc a été d'accord de partager, si vous voulez, le Sahara occidental entre lui et la Mauritanie, et chacun en prenait une partie. Mais au moment où la Mauritanie, en 1979, a signé la paix avec le Front Polisario, le Maroc a immédiatement envahi la partie laissée libre par la Mauritanie. Ce qui fait que maintenant, il revendique le tout. Et donc, on se rend compte que c'était cet expansionnisme qui pourra s'arrêter où et quand. Le peuple sahraoui est en train de l'arrêter et de libérer son territoire. Mais là, vraiment, tous les arguments historiques ne tombent que par ce fait même que le Maroc a envahi la partie qu'il disait être à la Mauritanie.
Alors, par rapport à la guerre elle-même, ça vous paraîtra bébête, mais on peut dire que la guérilla a libéré jusqu'à présent, enfin l'armée sahraoui, puisqu'il s'agit d'une véritable armée, a libéré 95% du territoire. Évidemment, le 5%, c'est, si on peut dire, le plus intéressant. Il y a Boukra, le gisement de phosphate, il y a la capitale El Aaiun où vivent des milliers de civils sahraouis qui d'ailleurs sont regroupés en sorte de cordon de sécurité à l'extérieur de la ville de façon à ce que si les sahraouis ont l'idée de tirer sur la ville elle-même, ce sont les populations civiles qui sont touchées en premier. Et il y a encore Darla, une ville plus au sud, vers la Mauritanie. Qu'est-ce qu'on peut dire des zones libérées? Pour le moment, les Sahraouis sont en train de les mettre en valeur. Elles sont en train de commencer à exploiter ces zones libérées, à y construire, à installer la population et à même cultiver quelques jardins pour mettre en valeur tout ce territoire.
Bien, nous allons vous faire écouter un peu de musique sahraoui. Je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner au 20 01 93 en faisant le 023 depuis Genève.
Particulièrement difficile pour le peuple sahraoui a été cette première phase en fait où le Maroc, vous vous souvenez peut-être de la marche verte, a pénétré dans le Sahara occidental. Et si on nous a montré cette marche verte comme un cortège de chômeurs et de miséreux marocains qui avaient été emmenés dans des camions pour envahir pacifiquement cette région. D'un autre côté de la frontière, l'armée marocaine arrivait, et alors elle ne se privait pas, avec son aviation, de bombarder au napalm, au phosphore blanc. Et on a même vu ici une fillette, par exemple, qui était venue pour essayer de se faire mettre de prothèse, de membres complètement déchiquetés, etc. Et à ce moment-là, bon, les gens étaient très motivés et ils se sont mis à fuir ces bombardements. Les combattants, enfin tout le peuple, était très déchiré entre le fait on s'oppose à l'entrée marocaine ou bien on protège la population de façon à ce qu'elle ne soit pas complètement tuée et que le génocide complet ne soit pas perpétré. Si bien que la priorité a été donnée à la population, donc le Maroc a pu pénétrer, mais par contre, une grande partie de la population a pu être emmenée d'abord toujours au Sahara occidental, mais près de la frontière algérienne, dans des camps de réfugiés, et là, les gens se sont établis avec ce qu'ils avaient réussi à emmener. Ils y sont restés quelques temps, et l'aviation marocaine est revenue et a de nouveau bombardé. Et alors là, il y a des témoignages absolument épouvantables de la boucherie que ça a été. Sous les tentes où les gens étaient déjà arrivés, après des heures et des jours de marche, les blessés arrivaient aussi. Et là, de nouveau, ça a été le bombardement. Et c'est à ce moment-là, voyant que sur leur territoire, ils ne pouvaient vraiment pas sauver leur population, que les Sahraouis sont partis, ont recommencé leur exode et sont partis jusqu'en Algérie, tout près d'ailleurs de la frontière sahraoui, et qu'ils ont pu trouver abri sur une armada, un coin de désert complètement, vraiment désertique. Hein. Ce n'est pas les belles dunes de sable qu'on peut s'imaginer, mais c'est caillouteux, rien n'y pousse. C'est d'ailleurs des problèmes pour les réfugiés maintenant. Pour aller chercher du bois, il faut faire des centaines de kilomètres et pour cuire quelque chose. Les animaux n'y trouvent rien. Vraiment, ils sont réfugiés dans cet endroit-là. Et alors, dès leur arrivée, ils ont commencé de prendre en charge toute leur organisation, vraiment de construire déjà ce qu'ils veulent pour cette République sahraoui qui existe, mais qu'ils ne peuvent pas vivre encore librement dans leur pays. Et là, le rôle des femmes devient vraiment primordial.
Oui, je crois que bon, c'est ce qu'on en avait déjà parlé. C'est donc dans ces camps de réfugiés, si on peut parler de camps de réfugiés, que les femmes ont pris une place très forte, surtout dans l'organisation des camps. Alors, on pourrait un peu parler, vous pourriez nous expliquer un peu comment ces camps sont organisés, donc les différents comités, les regroupements de ces comités, comment fonctionne le camp et la place que les femmes ont prise dans les différentes structures d'organisation des camps de réfugiés.
Bon, on peut dire qu'il y a eu... Il y a eu de la progression dans cette installation des camps de réfugiés. Maintenant, on peut dire que les camps de réfugiés sont vraiment les bases du futur État sahraoui. Il y a une structure vraiment très, très bien établie qui s'est perfectionnée au cours des années. Et notamment la structure des comités. Il y a 5 comités populaires. Le comité de santé, le comité d'approvisionnement, d'éducation, d'artisanat et d'affaires sociales. La défense est en prise en charge par l'État sahraoui lui-même. Donc les femmes qui sont très largement représentées dans les camps, puisque les hommes sont à la guerre, s'occupent pratiquement de toute la gestion des camps. Et elles ont très bien pris ça en main. Le problème auquel elles ont dû faire face très tôt est l'analphabétisme. En fait, seules 2 femmes avaient pu suivre une formation secondaire en Espagne. Et pratiquement 95% des femmes étaient analphabètes au moment de l'invasion marocaine. Donc il a fallu alphabétiser toutes ces femmes, il a fallu alphabétiser aussi les personnes âgées, les militaires, scolariser les enfants évidemment, Actuellement, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement nous a dit qu'on ne pouvait pas éduquer tout le monde, enfin alphabétiser tout le monde, offrir une formation ou une scolarisation à tout le monde, mais qu'un maximum était fait dans ce sens-là.
Alors, au sujet de l'éducation, je crois qu'il y a quelque chose de très important à dire au niveau de l'autonomie même des Sahraouis. Absolument, démunis de tout, ils auraient bien pu prendre manuels, des manuels espagnols ou des manuels algériens pour faire leur scolarisation. Mais en fait, ça ne correspondait pas à ce qu'ils étaient en train de vivre et ça ne correspondait pas à leur histoire et à tout ce qu'ils étaient. Donc, les enseignants qui peu à peu deviennent plus nombreux, parce que dès qu'on a passé un certain seuil, eh bien, on éduque les plus jeunes, eh bien, ils ont fait eux-mêmes leur ouvrage, leur manuel. Et c'est assez extraordinaire de voir leur réalité, page après page, qui est prise pour l'enseignement de la langue, pour l'enseignement des mathématiques, de l'histoire, etc. C'est vraiment une autonomie complète. Ils ne veulent dans aucun cas tributaire et faire passer en fait tout ce qu'on peut faire habituellement passer dans des manuels d'éducation. Ils veulent vraiment faire passer ce que eux ont envie, ce qui passe actuellement aussi bien dans l'alphabétisation que pour les enfants. Alors je crois que ça c'est vraiment quelque chose de très très important et qui est peut-être propre. Et s'il y a des enseignantes qui nous écoutent, on a bien souvent envie aussi d'avoir ses propres manuels. On s'est assez bien critiqué, et à juste titre, ceux que nous avons en général.
Alors, au point de vue de l'enseignement, on peut dire en gros qu'il y a un internat pour les enfants, parce que les enfants sont quand même la priorité. On essaye de les scolariser pratiquement tous, et on y arrive à peu de choses près, disons. Il y a l'internat du 9 juin. Le 9 juin, c'est donc la date de la mort du premier secrétaire général du Front Polisario, Mustapha El Wali. Cet internat peut accepter ou peut scolariser, disons, 3000 enfants. Il y a l'école du 27 février qui a été faite, qui a été créée à l'intention des femmes, où elles peuvent suivre des petits stages de 4 à 6 mois, par exemple d'alphabétisation ou d'approfondir la connaissance d'une langue nationale, que ce soit l'arabe ou l'espagnol, ou d'autres branches comme l'arithmétique, etc. Elles peuvent aussi faire l'apprentissage de divers métiers qui peuvent être utiles maintenant ou après, tels que la couture, le tissage, etc. Et il y a une autre école, le 17 octobre, qui initialement est faite pour les hommes et qui accueille de jeunes gens, en fait, qui assurent une formation secondaire ainsi qu'une instruction militaire. Il y a également dans cette école du 17 octobre des personnes du troisième âge, plusieurs centaines de personnes du troisième âge. Voilà pour l'éducation.
Oh,
si on veut parler un petit peu de l'organisation de ces 165 000 réfugiés dans ce désert complètement isolé aussi de tout, l'organisation est la suivante. Il y a 20 camps et qu'on appelle des daïras, du nom, qui sont des communes en fait, et qui ont pris le nom d'un certain nombre de localités de la République sahraoui elle-même. Et ces communes sont regroupées, elles aussi, en trois wilayas, trois cantons, et à ce niveau-là, il y a aussi une structure existante. Dans chaque camp, il y a donc plusieurs comités, éducation, ravitaillement, santé, artisanat, justice et affaires sociales. Et ces différents comités sont composés d'une série de personnes qui s'occupent principalement de ces tâches-là. Et évidemment que c'est des femmes qui sont participantes à ces comités de base, puisque c'est elles en fait qui gèrent toute cette organisation dans les camps de réfugiés. Ce qui fait qu'elles ont un pouvoir très important parce que la structure même du Front Polisario est une structure qui part de la base vers le sommet et qui redescend. Alors, les comités se regroupent, ont un certain nombre de besoins et ces besoins sont ensuite discutés en congrès de communes, si vous voulez, dans les daïras, on en discute et ensuite ça monte plus haut pour donner lieu, tous les 4 ans environ, à un congrès général populaire où toutes les revendications, tous les besoins, tout ce qui s'est passé est discuté. Et alors, à ce moment-là, on décide de grandes options. À partir donc de cette réalité vécue, on décide des options et les choses vont redescendre. C'est pourquoi si on regarde, par exemple, la liste des personnes responsables dans le Front Polisario, on y voit peu de femmes. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure, il y a un problème d'alphabétisation qui est entré en ligne de compte. Mais ces femmes ont un pouvoir réel sur leur existence et ce pouvoir réel monte jusqu'à ce congrès populaire général qui a eu lieu d'ailleurs, le dernier a eu lieu en octobre de cette année, et on s'est rendu compte qu'avec tous les apports qu'amenaient les comités de base, bien des choses ont changé, des responsables ont changé aussi, et qu'il y a un véritable pouvoir à la base qui transforme les structures au sommet même. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir comment les retombées et les décisions prises vont de nouveau être exécutées de nouveau par les femmes dans les camps. À part une ou deux choses qui sont donc au niveau national, telles l'armée par exemple. Pourquoi ces différents comités ? Parce que bon, l'éducation, il n'y a pas besoin d'en parler trop longtemps, on vient d'en parler. Il y a peut-être une chose intéressante à dire, quand les femmes vont suivre l'école des femmes proprement dite, où elles vont apprendre de tout, le maniement des armes aussi, parce que c'est elles qui vont défendre les campements. On n'en voit pas beaucoup dans l'armée sahraoui proprement dit, parce qu'elles ont des tâches efficaces aussi dans les campements, mais elles sont armées, il faut qu'elles puissent défendre ces camps contre les agressions qui viendraient. Il y a un comité de ravitaillement. Pourquoi ? Parce qu'évidemment qu'ils ne poussent absolument rien là-dessus, sur ce terrain, et que tout vient de l'extérieur. Et l'approvisionnement est aussi un problème, parce que parfois on a une petite avance d'un mois, et puis ça peut marcher. Et puis il y a des trous à certains moments. Cette aide vient de la solidarité internationale. Les comités de soutien essayent de faire un maximum. Le HCR, depuis 2 ans, donne quelque chose qui correspond à peu près à 10% des besoins du peuple sahraoui. L'Algérie fait une grande part aussi. Et différentes autres organisations qui peuvent aider les sahraouis à se nourrir. D'autre part, comité de la santé, qui s'occupe donc plus spécialement de tout ce qui touche à l'hygiène et à la santé. Il y a un travail préventif très très important qui est fait. Au début, il y a eu des hécatombes d'enfants, par exemple, qui mouraient d'une rougeole, tout simplement, parce qu'ils étaient sous-alimentés et qu'on n'avait pas même les vaccins nécessaires. Alors, il y a de grandes campagnes qui se font de vaccination et puis aussi d'apprentissage simplement d'hygiène dans cette nouvelle forme d'habitat que les gens ont, dans cette nouvelle façon de vivre. Donc, il y a toute une éducation qui se fait et qui se fait beaucoup sur le tas. Les femmes qui ont suivi quelque chose le font passer à d'autres et ça se fait sur le tas. Il y a des centres de puériculture, des centres de santé dans les différentes communes, les différentes daïras, et un hôpital national où les cas les plus graves vont. Et là, les mères accompagnent toujours leurs enfants. Il y a une proximité mère-enfant qui continue d'exister à l'hôpital. Pour l'artisanat, ce comité-là s'occupe plus précisément d'essayer que les réfugiés puissent devenir de plus en plus autonomes. Avec des matières premières qui leur sont apportées de l'extérieur, ils essaient vraiment, que ce soit au niveau des habits, au niveau des objets usuels, de les fabriquer de façon à pouvoir être moins dépendants de l'extérieur. Ils récupèrent aussi pas mal de choses, par exemple tout ce qui est fer est récupéré sur l'ennemi, que ce soit des morceaux d'avion, des morceaux de canon, etc. Et ensuite, c'est travaillé, et ça peut donner les ustensiles utiles dans les camps. Tu veux parler peut-être du comité de la justice des affaires sociales ?
Bon, il y a donc le comité de la justice ou des affaires sociales qui s'occupe en fait de tous les litiges qui surviennent maintenant dans les camps de réfugiés entre les personnes, mais ne s'occupe pas des anciens litiges survenus avant la révolution. Alors, il a surtout affaire aux problèmes, évidemment, de mariage et de divorce. On pourrait expliquer comment se passe un mariage dans les camps de réfugiés. Un couple qui désire se marier se rend vers le cadi, c'est-à-dire une sorte de prêtre, si on peut dire, et le comité des affaires sociales, et parle de son intention de se marier. Il y a un entretien qui s'ensuit, au terme duquel le cadi consacre ce mariage. Ensuite, le comité des affaires sociales s'occupe de tout ce qui est de tout l'aspect fête, c'est-à-dire l'annonce publique du mariage, de procurer la tente, parce qu'au début du mariage, le nouveau couple a le droit à une tente pour lui tout seul, et quelques jours après, il rejoint vite une plus grande tente. Ce comité des affaires sociales s'occupe aussi de la nourriture pour la fête, de la troupe musicale, etc. Et la fête elle-même, le mariage elle-même, qui se fait aussitôt après cet entretien, dans les jours qui suivent, se compose principalement de débats. On y parle de politique, on y parle de tout. La femme habituellement commence les débats et c'est le mari qui termine, qui conclut, et il y a toute une animation musicale et théâtrale. Il n'y a évidemment pas de dot. On nous dit parfois que c'est juste une chèvre ou un petit objet symbolique. Parfois, il n'y a absolument rien du tout, aucune dot, ni même symbolique. Officiellement, le mariage se fait à partir de 18 ans pour les femmes et 20 ans pour les hommes. Mais des gens ont pu voir, enfin des personnes qui ont été invitées à visiter les camps de réfugiés ont pu voir des époux beaucoup plus jeunes que cet âge-là. Et concernant le divorce, alors, il peut être demandé par l'un ou l'autre des conjoints. Il se fait après discussion, toujours avec ce comité des affaires sociales. Et ce comité essaye de lutter, disons, contre une habitude qui est très implantée dans la région, le goût du divorce. Et c'est après une discussion, des essais avec les conjoints, de réconciliation, qu'on essaye de faire revenir les époux sur leur décision de divorce. Par contre, si l'un des fautifs refuse d'améliorer sa conduite, si l'on peut dire, il sera traduit, entre guillemets, devant un tribunal populaire, toujours ces personnes qui composent le comité des affaires sociales, qui discuteront ouvertement avec lui de son attitude ou avec elle et essayeront de trouver des solutions.
Pleine lune, Radio Zone. Vous pouvez poser des questions au 20 01 93. Les femmes du comité Sahraoui sont ici dans nos studios, pas du tout chauffées, on a très froid. Alors vous pouvez nous téléphoner, ça nous réchauffera en tout cas le cœur.